Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 8 février 2021. Bonjour, bienvenue. Donald Trump se retrouve à nouveau demain mardi en position d'accusé au Sénat américain, dont les élus devront dire si l'ex-président des États-Unis a encouragé l'assaut meurtrier sur le Capitole dans les derniers jours de son mandat. À plusieurs titres, ce nouveau procès entrera lui aussi dans l'histoire. Jamais auparavant, un président n'avait été mis en accusation à deux reprises et jamais non plus un président n'avait été jugé après avoir quitté le pouvoir. Dès le 13 janvier, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates l'a mis en accusation pour incitation à l'insurrection. Donald Trump, qui sera absent, sera probablement acquitté, comme la première fois, car les 50 sénateurs démocrates auront beaucoup de mal à convaincre 17 républicains pour obtenir la majorité des deux tiers des 100 membres du Sénat nécessaires à une condamnation. George Shultz, ancien secrétaire d'État du président républicain Ronald Reagan et grand architecte de la diplomatie américaine à la fin de la guerre froide, est décédé samedi à l'âge de 100 ans, a annoncé dimanche le Hoover Institute. Une autre ancienne secrétaire d'État républicaine, Condoleezza Rice, a salué la mémoire d'un grand homme d'État américain et d'un vrai patriote qui a rendu le monde meilleur. Sur le continent, un accord a été conclu entre le gouvernement éthiopien et le Programme alimentaire mondial pour accroître l'accès humanitaire à la région du Tigré, dans le nord du pays. Depuis 3 mois, l'ONU et les ONG déplorent les restrictions d'accès humanitaire au Tigré, où des combats sont toujours signalés par endroits, malgré l'annonce par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed de la fin des hostilités avec la prise par l'armée fédérale de Mekele le 28 novembre. Crise libyenne, le président français Emmanuel Macron a fait part dimanche de sa disponibilité pour soutenir les actions du nouvel exécutif libyen lors d'un entretien avec Abdel Hamid Beba, élu premier ministre par intérim, et Mohamed Younes El Menfi, président du conseil présidentiel, a indiqué l'Élysée. La Libye a entamé samedi une nouvelle phase de transition au lendemain de l'élection d'un exécutif intérimaire qui aura comme défi de former un gouvernement, préparer le scrutin national prévu en décembre et mettre fin à une décennie de chaos. 8 soldats somaliens, dont un haut responsable militaire du renseignement, ont été tués dimanche dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, revendiqué par les islamistes radicaux Shebab. L'explosion a détruit leur véhicule militaire à la sortie de Doussa Mareb, un district situé dans le centre de la Somalie, à environ 400 km au nord de la capitale Mogadiscio. COVID-19, l'Afrique du Sud a suspendu temporairement dimanche son programme de vaccination contre le COVID, qui devait démarrer dans les prochains jours avec 1 million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca après une étude révélant une efficacité limitée contre le variant sud-africain. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sont appelés aujourd'hui à jauger l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca et Oxford après les réticences de l'Afrique du Sud. Les autorités haïtiennes ont annoncé avoir déjoué dimanche un projet de coup d'État visant le président contesté Jovenel Moïse, qui a assuré avoir échappé à une tentative d'assassinat. Cette tentative de coup d'État implique un juge de la Cour de cassation et une inspectrice générale de la police nationale haïtienne, a détaillé le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, dans une conférence de presse. 23 personnes ont été arrêtées au total. L'association des magistrats s'est indignée de l'arrestation arbitraire dans des conditions humiliantes du juge à la Cour de cassation et a demandé sa libération immédiate. En Birmanie, des milliers de manifestants sont à nouveau descendus ce lundi pour la 3e journée consécutive pour protester contre le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi, des travailleurs répondant à l'appel à la grève générale et rejoignant donc la fronde qui a drainé des foules importantes dans une dizaine de villes du pays. Dimanche, des dizaines de milliers de Birmans ont défilé à Rangoon, la capitale économique. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, barrage sur le Nil, le nouveau président de l'Union africaine pour un règlement du contentieux. La République démocratique du Congo annonce la résurgence d'Ebola dans l'est du pays. Le nucléaire iranien duel la distance entre Joe Biden et Khamenei sur la levée des sanctions. Jean-Roger Billon à ce micro, on revient dans un instant. Nous émettons de Washington. À tout à l'heure. La suite de nos informations en ce lundi 8 février 2021. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est engagé hier dimanche à chercher une solution au contentieux lié au méga barrage éthiopien sur le Nil Bleu pendant son mandat à la présidence tournante de l'Union africaine. Claire Morin-Gibou.
À l'issue d'un sommet en visioconférence des chefs d'État et de gouvernement africains, M. Tshisekedi a déclaré qu'il y avait une volonté d'un règlement pacifique des problèmes qui opposent actuellement l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet de la construction du barrage Renaissance sur le Nil. Ces trois pays négocient sans succès depuis près d'une décennie concernant la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance qu'Addis Abeba construit sur le Nil Bleu. Le projet lancé en 2011 est destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique, mais ce barrage suscite des tensions, en particulier avec l'Égypte qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau. Et qui craint que celui-ci soit réduit par l'installation. Monsieur Tshisekedi n'a pas précisé comment l'Union africaine, sous sa direction, pourrait œuvrer pour trouver une solution à ce contentieux. Les dernières discussions menées sous l'égide de l'UA n'ont pas débouché sur un accord en l'état.
La République démocratique du Congo a annoncé dimanche la résurgence de la maladie à virus Ebola dans l'est du pays où l'OMS a dépêché une équipe d'épidémiologistes. Le point avec Michel Joseph.
Trois mois après la déclaration de la fin de l'épidémie précédente, Eteni Langondo, le ministre congolais de la Santé, a annoncé hier la résurgence du virus d'Ebola à la télévision nationale avec la localisation d'un cas mortel dans la zone de Biena, dans le Nord Kivu. Le ministre a précisé qu'une cultivatrice, épouse d'un survivant de la maladie à virus Ebola, avait présenté le 1er février les signes typiques de cette maladie très contagieuse avant de décéder deux jours plus tard. Le village de Biena se trouve sur le territoire de Butembo où des épidémiologistes de l'Organisation mondiale de la santé sont en train d'enquêter sur place et où plus de 70 contacts ont été identifiés, a affirmé dans un communiqué le bureau Afrique de l'OMS. La désinfection des sites visités par le patient est en cours, ajoute l'OMS, qui souligne que Butembo était l'un des épicentres de la précédente épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC et qu'il n'est pas rare que des cas sporadiques surviennent après une épidémie majeure. En novembre, le ministre avait prévenu que le risque élevé de résurgence d'Ebola reste permanent en RDC.
Dialogue de sourds entre Washington et Téhéran concernant l'accord sur le nucléaire iranien. Joe Biden a prévenu qu'il ne ferait pas le premier pas vers l'Iran en levant les sanctions américaines, comme l'ont encore réclamé dimanche les dirigeants iraniens. À nouveau, Claire Morin-Gibou.
La reprise du dialogue entre les États-Unis et l'Iran s'annonce très difficile. Dans une interview sur CBS, le président américain s'est montré intraitable sur la possibilité de lever les sanctions pour convaincre Téhéran de revenir à la table des négociations. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a également campé sur ses positions. Les États-Unis doivent entièrement lever les sanctions dans la pratique et non sur le papier, a affirmé hier l'ayatollah dans un discours télévisé, assurant qu'il s'agit là de la politique définitive de la République islamique. En attendant un premier contact direct entre Washington et Téhéran, en coulisses, les grandes manœuvres sont lancées pour sauver l'accord sur le nucléaire. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a suggéré que les Européens pourraient chorégraphier, selon ses termes, les concessions des deux pays. Interviewé sur CNN hier, M. Zarif a affirmé que si les États-Unis et leurs partenaires reviennent dans l'accord et le respectent pleinement, l'Iran reviendra sur ses décisions.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le Nigeria a demandé aux banques de fermer immédiatement les comptes utilisant des crypto-monnaies sous peine de sanctions sévères. La Banque centrale nigériane rappelle que les monnaies virtuelles ne sont pas autorisées comme moyen de paiement dans le pays, même s'ils comptent l'un des plus grands nombres d'utilisateurs de crypto-monnaies au monde, selon le cabinet Chainalysis. Le Soudan du Sud va accroître la productivité et les revenus de près de 20 000 familles d'agriculteurs dans trois États grâce à un don de 14 millions de dollars de la BAD. Le projet AMVAT, qui s'étale sur 5 ans, créera des opportunités commerciales d'agrégation pour les agriculteurs et les commerçants, y compris les femmes et les jeunes. Il leur fournira de nouvelles compétences et les équipements de transformation agroalimentaire pour la production des produits compétitifs. Pour terminer, la Banque africaine de développement prévoit de débloquer jusqu'à 5 milliards de dollars en faveur des femmes au cours des 5 prochaines années pour renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. L'institution s'engage à renforcer les capacités des institutions financières opérant en Afrique pour les intéresser davantage à la niche des PME détenues par les femmes. La banque compte aussi les aider à adapter leurs produits et services au type d'entreprise que gèrent les femmes et les filles en Afrique.
Pour le sport ce matin, direction le Cameroun où le championnat d'Afrique des nations de football s'est achevé hier dimanche. À Yaoundé, retrouvons Emmanuel Jelenta.
La joie des supporters marocains au stade Omnisports de Yaoundé après le sacre du Maroc lors du CHAN 2020. Les Lions de la Glace ont conservé hier leur titre de vainqueur du championnat d'Afrique des Nations en venant à bout du Mali 2-0. 2 buts inscrits en seconde période sur des balles arrêtées. C'est donc pari gagné pour l'entraîneur du Maroc, Houssine Amouta.
Moi je l'avais déclaré que nous étions arrivés avec l'ambition, la détermination de produire du bon jeu. Nous étions présents ici pour conserver le titre. Donc, chose qui a été faite, ça a été un petit peu, moi je dirais, difficile, surtout en finale, parce que nous avons trouvé une équipe du Mali très organisée et très ambitieuse aussi. Donc, ça s'est joué sur des petits détails. Moi, je suis très content. Je suis très content du parcours qu'on a fait. Je crois, à la fin, nous l'avons mérité, vu le nombre de buts qu'on a marqués tout au long de la compétition, le nombre d'occasions qu'on s'est créées, les positions. Donc, je crois qu'on a mérité amplement de gagner, malgré que c'était difficile aujourd'hui.
Le Mali s'est pourtant créé les meilleures occasions de buts sans les concrétiser. Et pour la deuxième fois, le pays rate la première place du podium en 6 éditions du CHAN. Cette fois, l'équipe a perdu sur les détails, explique Nouhoun Diané, l'entraîneur du Mali.
On avait en face une très bonne équipe du Maroc. Je pense que c'est la meilleure équipe du tournoi. Vu le nombre de buts qu'ils ont marqué, le Maroc a marqué, c'était pas facile, on le savait. Mais il fallait aussi prendre des dispositions par rapport à ça. Je pense qu'on a perdu ce match-là sur les détails, et qui est aussi important. C'est vrai, c'est les détails, mais qui sont très importants dans ce genre de compétition. Je félicite une fois encore le Maroc. Je pense que c'est mérité.
Le Maroc sort du CHAN 2020, auréolé d'autres titres. L'attaquant Soufiane Raimi a été élu meilleur joueur du tournoi. En plus d'être le meilleur buteur avec 5 réalisations, le portier marocain Anas Zinti est quant à lui meilleur gardien de la compétition. Un match de classement disputé samedi, la Guinée s'est offerte la médaille de bronze face au Cameroun. Score de la partie Cameroun 0, Guinée 2. Une troisième place satisfaisante pour l'entraîneur des A' du Sili National, Kofani Lapé Bangoura.
Et donc on s'attendait à la finale, c'est vrai, c'était ça notre objectif. Mais le fait d'avoir la troisième place, c'est aussi extraordinaire. Et encore jouer contre le Cameroun, pour celui qui connaît le football camerounais, je vous avoue que c'est un exploit extraordinaire pour le Sili National local.
Le Cameroun achève la compétition 4e sur 16 avec 2 défaites consécutives et 6 buts encaissés lors des 2 derniers matchs. Mais l'entraîneur des Lions et Indomptable relativise la performance de ses poulains, Martin.
Quand on connaît le niveau de nos équipes du championnat, je pense que c'est une performance de ces garçons. Et c'est pour ça que je les ai félicités. Beaucoup sont jeunes, beaucoup découvrent la compétition internationale. Donc c'était difficile le rapport de force entre ces garçons et puis certains pays qui sont plus aguerris à ces compétitions. Pour moi, ils ont fait une bonne compétition au regard de notre niveau de football.
Les membres du groupe d'études techniques du CHAN 2020 ont pour leur part procédé à l'évaluation technique du tournoi. Ce groupe est constitué d'anciennes légendes du football africain, parmi eux l'ancien international sénégalais Khalidou Fadiga.
On a eu l'occasion de voir justement du bon football parce qu'il y avait de bonnes pelouses. Ça a permis justement aux joueurs de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Et bien sûr, à chaque fois, nous on a eu la chance, en tout cas Marc Fisch et moi, on trouve que on a été les plus gâtés, puisque pour nous, le groupe le plus relevé, c'était le groupe A. Mais je reviens quand même sur la condition physique pour des équipes qui n'ont pas eu de championnat. On a vu vraiment du très beau football et du football de haut niveau.
Au sujet de l'organisation du CHAN 2020, le Cameroun obtient de bons points d'après le secrétaire général adjoint de la CAF, chargé du développement du football, le Ghanéen Anthony Bafoui.
Le CHAN est une très bonne compétition, surtout quand tu peux jouer sur un pelouse vraiment vert, extraordinaire, des infrastructures fantastiques. Pour vous, les journalistes, vous pouvez travailler tranquillement et il y a de bonnes images à la télé. Et ça me donne une certaine fierté. Je dis que le Cameroun est sur la très bonne voie. Notamment, il y a des choses qui on doit travailler dessus, les détails qui on doit corriger. Mais je crois que cette chaîne, c'est vraiment un très bon test pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va être lieu ici.
À la veille de la finale du CHAN 2020, le comité exécutif de la CAF s'est réuni à Yaoundé et a pris acte du retour provisoire de Hamad Hamad, le président de la CAF aux affaires, après la suspension par le tribunal arbitral des sports des sanctions prises à l'encontre du Malgache. C'est tout pour la page des sports spéciales du championnat d'Afrique des Nations. CHAN 2020 à Yaoundé, Emmanuel Jontap, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Le Niger prépare le deuxième tour de l'élection présidentielle prévue le 21 février prochain, avec entre autres défis pour le futur président, la sécurisation du pays contre les agressions terroristes. Le 2 janvier dernier, une double attaque a fait plus de 100 morts parmi les civils à la frontière malienne. Notre correspondant Abdoul Razak Idrissa est allé à la rencontre de quelques rescapés de ce massacre. Reportage.
C'est sur le site des déplacés internes de Wallam, ville située à 5 km de Niamey, la capitale, que Sani Kalilou et 37 autres chefs de ménage de Tchoumabangou, un des deux villages attaqués le 2 janvier dernier, ont trouvé refuge. Ce jour-là, 105 personnes civiles avaient été massacrées par les terroristes. J'ai eu la vie sauve car je me suis terré dans ma case avec mes 5 enfants et mon épouse. Les bandits n'ont épargné que les enfants, les femmes et les hommes âgés. Je vous assure, c'était horrible ce jour-là. Avec l'aide de quelques amis, Sani monte le hangar qui servira désormais de lieu d'habitation pour lui et sa famille. Depuis plus d'un mois qu'ils sont sur le site, il leur manque presque tout, affirme Sani Kalilou.
Nous n'avons rien reçu depuis que nous sommes ici, ni nourriture, ni habits. Même ce hangar, c'est hier seulement que des ONG nous ont remis les tentes pour les construire. Nous avons vraiment besoin d'aide.
Depuis l'attaque contre les villages de Tchamobangou et de Zarumdarei, la situation humanitaire s'est fortement dégradée dans le département de Wallam. En visite là-bas, la semaine dernière, le directeur adjoint des opérations et du plaidoyer du Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU, OCHA, a promis de faire le plaidoyer nécessaire pour davantage d'assistance. David Carden.
J'ai été très impressionné par la résilience des gens que je viens de rencontrer et aussi la réponse humanitaire. On fait beaucoup pour les aider, on peut toujours faire plus, mais j'ai été très impressionné par la réponse aussi. Et aussi la coordination de la réponse entre le gouvernement national, le gouvernement local, les ONG, les agences de l'ONU. Et voilà, moi je viens du siège, je suis très content, je reviens pour plaidoyer les gens ici.
Ils sont plus de 10 000 personnes à l'image de la famille de Sani Kalilou ayant trouvé refuge dans des localités jugées plus sûres comme Wallam au lendemain de cette agression. Ces personnes viennent s'ajouter aux plus de 80 000 déplacés internes recensés à la date du 30 novembre 2020 par les Nations Unies. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Gabon, le parti au pouvoir a obtenu plus d'une quarantaine de sièges dans 52 circonscriptions du pays. Un véritable raz-de-marée face à une opposition quasi absente des élections sénatoriales qui se sont tenues les 30 janvier et 6 février dernier. En attendant d'éventuels recours, ce processus dévoile la configuration du partage du pouvoir dans la formation du collège de la transition selon les termes de la constitution gabonaise révisée en décembre dernier. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
L'hégémonie parlementaire du parti au pouvoir, désormais renforcée par son raz-de-marée au terme de ses sénatoriales, ne gêne pas Japhet Eyang, cadre à la fonction publique gabonaise.
En Chine, il y a un parti unique qui a fait, n'est pas contradictoire avec le développement économique. À Dubaï, il n'y a même pas d'opposition. Des pays quasiment émergents aujourd'hui. Donc je pense que la question se trouve ailleurs.
Le succès électoral du PDG était déjà garanti par un pacte de non-agression signé avec ses alliés. Frédéric Lebondo, conseiller du Centre des libéraux réformateurs, membre de la majorité présidentielle.
C'est la convention de la majorité, il faut la conforter.
Dans cette bataille, les quelques partis de l'opposition en course ont obtenu 5 sièges sous réserve d'éventuels recours en annulation du scrutin. Mais les militants de l'Union nationale, autre formation politique de l'opposition, se sont positionnés en arbitre du scrutin. Firmin Olo, conseiller UN.
Nous n'avons pas été à même de présenter une candidature. Mais c'est un devoir pour tout grand électeur que nous sommes pour venir voter.
Et vous êtes venu voter pour qui ?
Et nous sommes venus voter, effectivement. Là, on ne peut pas savoir.
Plus loin, devant le même centre de vote, André-Richard Nzogué, conseiller municipal à la mairie de Libreville, se dit scandalisé par le nouveau découpage électoral du pays.
Je reproche au gouvernement d'être plus ou moins en recul avec les phases démocratiques. Pour une grande commune comme Libreville, nous n'avons que 2 sièges. Avant, il y avait exactement 12 sénateurs et une province Côte d'Ivoire à 11 conseillers. C'est ce qui m'intrigue.
Selon David Gassion Vonobian, le président gabonais est désormais maître de l'horloge politique de toutes les dispositions contenues dans la nouvelle loi fondamentale. David Gassion Vonobian est un élu municipal proche du pouvoir.
Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pensé qu'il fallait qu'il nomme lui-même des sénateurs. Et quand il va les nommer, je pense que ça va se rattraper.
En attendant la nomination des 15 sénateurs de ce Parlement presque monocolore, le Front uni de l'opposition dénonce déjà l'architecture du Collège de la Transition, et son porte-parole.
Le pouvoir émergent introduit une complication inutile de conduite de la transition. Il entame l'affaiblissement du Sénat. Quant à la composition de ce triumvirat, les signataires dénoncent l'intégration du ministre de la Défense nationale dans celui-ci. Elle est de nature à fragiliser la cohésion de la transition et son caractère civil.
Le renouvellement du bureau du Sénat gabonais entraînera avec lui de possibles bouleversements au sein de l'exécutif du pays. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, 68 ans, qui dirige le pays depuis 30 ans, a été investi samedi par son parti, candidat pour un 6e mandat à l'élection présidentielle le 11 avril. Une investiture sur fond de crise politique. Le parti, les transformateurs et des acteurs de la société civile s'opposent à ce 6e mandat de M. Déby et ont appelé à manifester samedi dernier, le jour de cette investiture. Mais la manifestation a été réprimée par la police. André Kodbajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Après une mûre et profonde introspection, j'ai décidé de répondre favorablement à cet appel.
Idriss Déby Itno, investi candidat à sa propre succession pour la présidentielle d'avril 2021. Une investiture par acclamation au cours d'un congrès qui a duré environ une heure. Lors de cette cérémonie, le président Déby a déclaré à ceux qui ne le comprennent pas qu'il a dédié sa vie aux Tchadiennes et Tchadiens.
Tout le sens de la vie que j'ai menée depuis ma tendre jeunesse pour ce pays était motivé par cette philosophie. Je continuerai à me sacrifier tant que l'Éternel me donne la force.
À la veille de cette investiture, la LTDH, Ligue Tchadienne des Droits de l'Homme, et l'UST, Union des Syndicats du Tchad et quelques acteurs de la société civile ont, dans une déclaration dite de principe, dit non au 6e mandat du président Déby. Max Loalngar est le président de la LTDH.
Ce pouvoir antinational, prédateur, a en 30 ans de gouvernance installé le chaos par la destruction systématique et programmée des institutions de l'État, suscité et organisé des conflits et affrontements entre les peuples et les communautés et l'érection des coutumes désuètes planifiées la destruction de l'éducation et du système sanitaire. Puissent les travailleurs, les jeunes, les femmes et les démocrates s'organiser autour de cette plateforme et dire ensemble, ça suffit. Déby doit quitter le pouvoir.
Des militants du parti Les Transformateurs et ceux des mouvements citoyens ont manifesté samedi leur colère et exigé l'alternance en 2021. Des manifestations sporadiques dans différents quartiers de N'Djamena qui ont donné du fil à retordre à la police, obligeant l'armée nationale à faire décoller des hélicoptères pour surveiller la ville.
Nous manifestons parce que nous en avons assez, plein d'injustices dans ce pays. Et surtout nous les jeunes, nous ne savons que faire. Il est temps pour que nous disions à l'opinion internationale que ce n'est pas normal ce que le président actuel était en train de faire. Alors nous n'allons pas lâcher.
Ils arrivent, ils arrivent.
Sous la pression de la police, Succès Masra et quelques-uns de ses compagnons trouvent refuge à l'ambassade des États-Unis au Tchad. Pour Paul Manga, porte-parole de la police nationale, le président des transformateurs a non seulement violé les locaux de l'ambassade, mais il a violenté les éléments de la police alors que la marche était pacifique.
Chose inadmissible qui a poussé la police nationale à interpeller quelques individus pour trouble à l'ordre public, atteinte à l'intégrité physique des agents et destruction des biens publics.
Plusieurs manifestants de N'Djamena, Mundu, Doba et Sar ont été interpellés, parmi lesquels le secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour Ahmed Ibedou. Idriss Déby Itno, élevé au rang de maréchal l'année dernière, est arrivé au pouvoir par les armes en 1990 en renversant Hissène Habré avec le soutien de la France. Déby est élu président à la suite de la première élection pluraliste en 1996 en recueillant 69% des voix au second tour. Réélu depuis toujours au premier tour, le président tchadien est accusé de fraude électorale par l'opposition. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Congo-Brazzaville, les autorités ont ouvert une nouvelle université à Kintélé qui va accueillir plus de 30 000 étudiants. Cet établissement de l'enseignement supérieur ambitionne de fournir de nouveaux enseignements que jusque-là l'ancienne et unique université du pays n'a pu proposer aux apprenants. Les détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Trois établissements ont démarré pour l'année 2020 et 2021 à l'université Denis Sassou Nguesso de Brazzaville, la deuxième du pays après 60 ans d'indépendance. Jean-Jacques Bouya, ministre en charge des grands travaux, présente l'ouvrage.
L'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé est un complexe intégré. Il est prévu ici la construction à terme de ces 53 bâtiments capables de recevoir autour de 30 000 étudiants. Il a été jugé indispensable de procéder à un phasage des travaux pour favoriser une ouverture séquentielle de l'université. Ces bâtiments servent à abriter l'Institut supérieur de sciences et géographie, d'aménagement et environnemental, l'Institut supérieur d'architecture, d'urbanisme, bâtiments et travaux publics, la faculté des sciences et techniques.
Depuis 1971, le Congo ne disposait que d'une seule université publique, Marie Ngouabi, dont l'offre en place assise, en formation et en qualité de prestation alimente les plaintes quotidiennes des étudiants et des enseignants. Serge Ikiemi, enseignant à la faculté d'économie, et Vivien Manango à la faculté de droit à Marie Ngouabi, apprécient la nouvelle université.
Pour la formation des enfants, des étudiants, non seulement du Congo, mais aussi de l'Afrique centrale et de l'Afrique tout entière. C'est donc des jalons qu'il vient de poser pour la postérité. Nous en sommes très heureux. C'est un cadeau qu'il lègue à la postérité pour le développement.
La création de cette deuxième université, c'est évidemment une bonne chose dans la mesure où la plaquette de formation est assez complémentaire de ce qui se fait déjà à l'université Marie Ngouabi, notamment à l'INSP. Donc c'est une bonne chose puisque l'on va avoir des formations qui n'existaient pas dans notre université.
La rentrée académique a eu lieu le 1er février dernier. La toute première vague d'étudiants à cette université bénéficie de bonnes conditions de travail.
On a des conditions assez équitables pour les études. Donc on a à manger. On dort ici, on a des connexions Wi-Fi, donc les classes sont climatisées. Et pour votre information, on sera enseigné par le professeur Théophile Binga. Voilà, c'est une grâce pour nous.
En tant que la première promotion, avec notre devise, rigueur, excellence, lumière, on va aller dans la rigueur et dans l'excellence pour toujours être à la tête de cette promotion. Pour cette université, si on me dit de résumer en un mot, je dis que c'est un bijou pour notre pays.
Le président Denis Sassou Nguesso a inauguré la nouvelle université en présence de ses homologues Macky Sall du Sénégal, Mamadou Issoufou du Niger et Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.